Chapitre 3. À deux pas de la mort. Au journal, le départ de Charles est favorable à Duroy. Il commence à signer des articles en plus de ses échos. Il entre en relation avec de puissants hommes politiques. Une seule tâche trouble son horizon. Un journaliste anonyme, dans le journal La Plume, l'attaque tout le temps. Ce journaliste l'accuse de publier de fausses nouvelles dans ses échos. La dernière concerne Madame Aubert, une dame qui habite au 18 rue de l'Écureuil, à Montmartre. Ces accusations sont très embêtantes pour Duroy. Walter l'accueille froidement dans son bureau et lui ordonne d'aller chez cette dame pour vérifier l'information par lui-même et la démentir dans le journal. Duroy et son collègue se présentent chez la dame Aubert. Ils vérifient les faits auprès d'elle. De retour au journal, Duroy rédige sa réponse. Il raconte les faits et termine la note en disant « Voilà toute la vérité. Je refuse de répondre aux autres accusations du rédacteur anonyme de La Plume, Georges Duroy. » Le lendemain matin, il se lève très tôt pour chercher en bas de la rue le numéro de La Plume. Il arrête de respirer lorsqu'il aperçoit la note en bas de page. « Monsieur Duroy, de la Vie française, nous donne un démenti. Monsieur Duroy ment. La conscience de certains journalistes est au niveau de leur talent. Et je signe. Louis Langremont. » Duroy est en colère. On l'a insulté. Pourquoi ? Pour une dispute entre une vieille dame et son boucher ? À peine 8 heures du matin, il se rend dans le bureau de Walter.
« Eh bien, » dit Walter, le visage grave. « Vous ne pouvez pas reculer ?»«
Non, je ne peux pas. Je dois venger mon honneur. Je dois me battre en duel !» articule difficilement Duroy.
« Allez tout de suite trouver votre collègue Rival. Il se chargera de tout organiser. »
Rival fait descendre Duroy dans une énorme cave sans aucune ouverture sur la rue. Cet espace immense a été transformé en salle d'armes et de tir. Il pose 2 pistolets sur une table. Il les charge avec des cartouches et demande à Duroy de s'entraîner au tir jusqu'à midi. L'après-midi, Rival informe Duroy que le duel aura lieu demain à 7 heures du matin dans une petite forêt à côté de Paris. De retour chez lui, Duroy se sent un peu perdu. Tout cela s'est fait très rapidement. Il pense à son adversaire. Cet homme doit être un vrai tireur puisqu'il a accepté de se battre contre lui. Il imagine leur rencontre. Ses mains commencent à trembler. Il serre les dents pour ne pas crier. Il va vers l'armoire, sort une bouteille d'eau-de-vie, la boit d'un coup pour se calmer. Le lendemain matin, 8 hommes arrivent en pleine campagne. Duroy et son adversaire, leurs 4 témoins et 1 médecin. Les témoins enfoncent 2 bâtons dans le sol. On amène Duroy jusqu'à 1 des bâtons et on lui remet son pistolet. On fait la même chose avec son adversaire.
« Êtes-vous prêts, messieurs ?»
dit une voix.
« Oui !»
crie Georges.
« Feu !»
ordonne la voix. Duroy et Louis Langremont lèvent les bras et appuient sur les gâchettes. Personne n'est blessé. Ils sont à égalité. Duroy reste immobile, paralysé de surprise et de joie. C'est fini. Il se sent capable de battre n'importe qui. De retour au journal, les témoins rédigent le procès-verbal. Il sera ajouté dans les échos. Le patron Walter embrasse Duroy.
« Bravo ! Vous avez défendu le drapeau de la Vie française. Bravo !»
L'absence de Forestier se prolonge. Duroy continue son ascension au journal. Grâce au duel, il est devenu l'un des premiers journalistes de la Vie française. Mais il a toujours beaucoup de mal à avoir de nouvelles idées. Il a pris à son compte l'appartement meublé rue Constantinople. 2 ou 3 fois par semaine, Madame de Marelle vient chez lui tôt le matin. Duroy, lui, dîne tous les jeudis chez les Marelle. Il vit sans un nuage dans son ciel. Or, une nuit,
Comme il rentre chez lui, il trouve une lettre glissée sous sa porte. C'est une lettre de Madame Forestier. Il ouvre la lettre et lit.
Cher monsieur et ami, j'ai besoin de vous. Ne me laissez pas seul. Charles va mourir. Le médecin m'a prévenu. Je n'ai plus la force ni le courage de le voir souffrir jour et nuit. Mon mari n'a plus de famille. Vous êtes son seul camarade. Il vous a ouvert la porte du journal. Venez, je vous en prie. Je n'ai personne à appeler. Madeleine Forestier.
Un sentiment étrange entre comme un souffle d'air au cœur de Duroy. Pauvre Charles. Le lendemain, il prévient le patron et les Marelles de son départ. Il arrive à Cannes le jour suivant, vers 16h. Arrivé à la Villa Jolie, une petite maison de style italien, on le fait entrer dans un salon élégant. Duroy est impressionné par la richesse du lieu. Madame Forestier vient vers lui et l'embrasse. Elle a un peu maigri, mais elle est encore plus jolie avec son air triste. Il monte au premier étage. Elle ouvre une porte. Duroy reconnaît à peine son ami. La tuberculose l'a beaucoup affaibli. La chambre sent la fièvre et les médicaments. Forestier lève sa main d'un geste fatigué et lent.
Te voilà. Tu viens me voir mourir? Je te remercie, dit Charles.
Te voir mourir? Ce ne serait pas un spectacle amusant. Je viens te dire bonjour et me reposer un peu.
Ouvre un peu la fenêtre,
demande Charles à sa femme. Elle ouvre toute grande la fenêtre. Un vent léger et odorant les surprend et les caresse tous les trois. Forestier dit, d'une voix basse mais furieuse,
« Ferme la fenêtre! Cela me fait mal! J'aimerais mieux mourir dans une cave !»
Un lourd silence, profond et douloureux, se fait entendre. Madame Forestier, toujours debout, le visage contre un carreau de fenêtre, semble absente. Duroy a envie de s'en aller, de retourner à Paris tout de suite. Le lendemain matin, Charles n'arrive plus à respirer. Duroy va chercher le médecin. Le docteur Gaveau lui prescrit un médicament et donne quelques conseils. Duroy le reconduit vers la sortie.
« C'est l'agonie, lui dit le médecin. Il sera mort demain matin. Prévenez sa femme. Moi, je n'ai plus rien à faire. »
Duroy et Madame Forestier décident alors d'appeler un prêtre. Assis devant la chambre de Charles, la jeune femme et Duroy sont émus. Ils entendent le prêtre réciter une prière et demander à Charles de se confesser. Après le départ du prêtre, Charles ne parle plus. Il reste immobile et essoufflé. De grosses larmes coulent sur ses joues. Madeleine commence à pleurer aussi. Le temps passe. Il est midi. Duroy sort de la chambre pour aller manger un peu. Il revient une heure après. Madame Forestier, assise sur une chaise au pied du lit, refuse de quitter la chambre de Charles. Il prend une chaise et se met à côté d'elle. Une garde, envoyée par le médecin, arrive. Deux heures silencieuses passent. Duroy commence à s'endormir. Soudain, une sensation étrange le réveille. Il ouvre les yeux juste à temps pour voir Forestier fermer les siens. Sa femme pousse un cri étouffé et tombe sur les genoux. Georges, surpris, fait machinalement le signe de la croix. La garde s'approche du lit et dit « Ça y est, il est parti. » Duroy court toute la nuit. Il s'occupe des démarches pour enterrer le mort. Puis, il retrouve Madame Forestier dans la chambre funèbre pour veiller le corps. Ils restent sans parler, perdus dans leurs pensées. Les yeux de Georges
reste fixé sur le visage maigre du mort. Il se dit « C'est là mon ami Charles Forestier. Hier, il me parlait encore. La fin d'un être est une chose étrange et terrible. » Il détourne les yeux pour ne plus regarder le cadavre. Madame Forestier, la tête baissée, semble penser aussi à des choses douloureuses. Ses cheveux blonds sont si jolis sur son visage triste. Georges éprouve une sensation de douceur dans son cœur. Tenir dans ses bras une femme aimée, là est la limite du bonheur humain. Il se demande ce que Madame Forestier allait faire. A-t-elle des projets précis? Qui va-t-elle épouser? Il désire la conquérir. Comme il serait fort avec elle. Il pourrait aller vite et loin. Il est impatient de connaître les intentions de Madeleine avant son retour à Paris après-demain. Alors, dans le silence profond de la chambre, il lui dit tout bas « C'est un grand coup pour vous et un changement si complet dans votre vie. Vous savez bien que vous pouvez toujours compter sur moi.
Merci. Vous êtes bon. Oui, je vais être bien seule, mais je m'efforcerai d'être courageuse. »
Le cadavre commence à sentir mauvais. Duroy ouvre la fenêtre pour renouveler l'air de la chambre. Madeleine vient se mettre tranquillement près de lui. Alors Duroy murmure à voix basse, sans tourner la tête vers elle.
« Écoutez-moi et surtout ne vous fâchez pas contre moi. Je sais, je ne dois pas parler d'une chose pareille en ce moment. Mais quand vous reviendrez à Paris, il serait peut-être trop tard. Voilà, je suis sans fortune et sans position. Mais j'ai de la volonté, un peu d'intelligence et je suis en bonne route. Je vous ai dit un jour chez vous que mon rêve le plus cher est d'épouser une femme comme vous. Je vous répète aujourd'hui ce désir. Ne me répondez pas maintenant. Quand nous nous reverrons à Paris, vous m'annoncerez votre décision. »
Madeleine reste silencieuse à côté de lui. Il continue à veiller le mort. Vers minuit, Duroy s'endort le premier. Le lendemain après l'enterrement, les deux jeunes gens s'assoient en face l'un de l'autre pour déjeuner. Ils ont envie de parler de choses plus agréables, de rentrer à nouveau dans la vie. Une douce chaleur printanière apporte un souffle parfumé de roses. Après le repas, Madame Forestier propose à Duroy de faire un tour dans le jardin. Là, elle lui dit d'une voix basse et sérieuse «
Écoutez, mon cher ami, j'ai bien réfléchi à votre proposition. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous répondre. Je ne vous dirai ni oui ni non. Nous attendrons. Nous verrons. Nous nous connaîtrons mieux. Réfléchissez beaucoup de votre côté. Nous reparlerons de cela plus tard. »
Le lendemain, Madame Forestier conduit Duroy à la gare. Il est triste de la quitter. Il monte dans le train. La locomotive siffle. Et le convoi doucement se met en marche. Le regard de Madeleine le suit. Avant de la perdre de vue, il prend, avec ses deux mains, un baiser sur sa bouche pour le jeter vers elle. Elle le lui renvoie, d'un geste plus discret et hésitant.